Bonsoir. Merci d'être présent après une grosse journée de travail. Je propose de commencer ce cours par une petite histoire authentique. Une enfant de 11 ans a une maman qui est extrêmement exigeante par rapport à elle et par rapport à tous les membres de la famille. Et pour Noël, elle lui a acheté une tasse toute cabossée qu'elle a trouvée dans un magasin de farce et attrape. Sur cette tasse, il est écrit « Personne n'est parfait ». Et elle a offert ça à sa maman, mais sans savoir ce qu'elle faisait. Et sa maman, qui a accueilli ce cadeau avec un grand sourire, et maintenant, c'est une jeune femme qui a plus de 30 ans et sa maman a toujours cette tasse sur son étagère dans sa cuisine. Le cours pourrait s'intituler en disant « Il n'y a pas de famille parfaite ». On fait ce qu'on peut avec ce qu'on est, avec son histoire qui est d'un côté faite de grandes choses magnifiques, de grands élans, de générosité et qui a aussi ses petits côtés, ses souffrances, ses obstacles, ses obscurités. Pour pouvoir interpréter nos histoires familiales qui sont ô combien complexes, rien de tel que de plonger dans l'Écriture sainte, qui ne fait pas une théorie générale de la famille, avec la famille parfaite, oh oui, un petit peu avec Adam et Ève, hein, en chapitre 1 et 2 de la Genèse. Mais très vite, on tombe dans le chapitre 3, hein, qui est plutôt notre monde. C'est d'ailleurs amusant, quand on prépare des jeunes fiancés au mariage, on est beaucoup dans Genèse 1, 2. Et puis, dès que le mariage commence, on tombe vite dans Genèse 3, d'accord ? Qui est en fait la réalité. La réalité telle qu'elle se vit aujourd'hui. Alors donc, nous allons plonger dans ces différentes histoires, de différentes façons, qui vont pas nous donner une théorie générale, encore une fois, sur la famille, même si ce genre de théorie est importante. Il ne s'agit pas du tout d'un mépris quelconque de philosophie de la famille, ou bien même de réflexion dogmatique sur la famille, mais il s'agit de plonger dans ces histoires et de voir comment est-ce qu'elles éclairent nos histoires. Alors, aujourd'hui, je voudrais commencer par une leçon extrêmement ample, et donc pour ça je vais devoir prendre un point d'attaque précis, à savoir la question du lien conjugal. Puisque finalement, qu'est-ce qui fonde la famille ? Nous aurons l'occasion d'y revenir, notamment lorsque nous étudierons les nouveaux modèles familiaux. Qu'est-ce qui fonde la famille profondément ? Est-ce que c'est le fait d'être parent ? Est-ce que c'est le fait d'être ceci ou cela ? Ou est-ce que ce n'est pas le fait d'être homme et femme unis dans le mariage ? La question du lien conjugal, c'est la question que nous posons. Alors, à chaque soirée, j'interrogerai les textes à partir d'une problématique, à partir d'une question, une question précise. Cela ne signifie pas qu'on peut évidemment enfermer le texte. Le texte dira tellement plus que ce que je vais pouvoir, comme dirait Gad Elmaleh, bafouiller, d'accord ? Le texte est beaucoup plus large, évidemment, mais je vais poser chaque fois une question aux textes bibliques qui seront abordés. Alors, par rapport au lien conjugal, je voudrais poser la question que j'ai découverte dans ce très beau petit livre de Pierre Grelot, un grand exégète, « Le couple humain dans l'Écriture ». Il distingue dans le couple humain trois aspects, j'en rajoute un quatrième, à savoir trois ou quatre piliers, personnellement j'en choisis quatre: sexualité, amour, fécondité et institution. D'accord ? Donc, qu'est-ce qui constitue le lien conjugal ? C'est l'institution, l'amour, la fécondité, la sexualité. On peut les mettre de différentes façons. Et je vais partir d'une réflexion de notamment Livio Mellina dans ce livre « Amour conjugal et vocation à la sainteté » où il analyse notre époque en constatant une rupture entre ces quatre grands piliers. Le premier moment consiste dans une séparation au cœur même du lien matrimonial entre sa dimension institutionnelle et d'autre part ses dimensions relatives à l'amour des conjoints, à l'exercice de leur sexualité et de leur fécondité. On a tous entendu cela. Pas besoin de nous marier devant le bourgmestre, devant l'église ou devant toute institution pour nous aimer. Notre amour ne regarde que nous. Plus radicalement, le mariage apparaît comme un obstacle à la spontanéité des partenaires, une entrave à leur liberté, un frein à la créativité de leur amour. C'est tout un discours que nous avons entendu et qui est présent aujourd'hui de façon importante. Selon cette mentalité, l'amour pour toujours demeure certainement un idéal, mais la sincérité des sentiments s'impose comme la valeur à rechercher par-dessus tout. Inversement, l'hypocrisie de l'amour, entre guillemets, avec ses faux-semblants, doit être absolument écartée. Donc, si vous voulez, dans un premier temps, on dissocie institution, amour, sexualité et fécondité. Dans un deuxième temps, l'amour et la sexualité, libérés de leurs contraintes institutionnelles, entreprennent de se délivrer de celles inhérentes à la procréation. Ils tentent d'en dénouer le lien intime. Institution, et puis la question de la fécondité n'apparaît plus comme essentiellement liée d'une part à l'institution et d'autre part à la sexualité et à l'amour. Déchargé du poids, entre guillemets, de l'institution et de l'enfant, l'amour libre ne s'arrête pas en chemin. Emporté par son mouvement, l'amour et la sexualité vont vouloir se dissocier l'un de l'autre. Ils ne sembleront plus nécessairement aller de pair. On peut très bien pratiquer la sexualité sans aimer le ou la partenaire. Il ne faut pas mélanger les ordres. C'est quelque chose que ça peut peut-être étonner certains d'entre nous, mais c'est il suffit d'être avec le monde des jeunes et puis le monde médiatique pour se rendre compte que sexualité et amour ne vont plus nécessairement ensemble. Le sexe tend à ce moment-là à se prendre pour sa propre fin. Il devient un absolu au sens étymologique du terme. Ce faisant, il se dépersonnalise, se déshumanise. Son point de référence réside dans son autosatisfaction, c'est-à-dire dans le plaisir sexuel individuel. Donc, l'intérêt de cette grille de lecture développée par Mellina, Livio Mellina, c'est de montrer qu'il y a un enchaînement auquel nous assistons depuis les années 68 et même un peu avant, selon lequel peu à peu l'institution se dissocie et même se sépare et s'oppose avec la fécondité, l'amour, la sexualité, et puis deuxième temps, la fécondité avec la sexualité et l'amour, et puis l'amour et la sexualité aussi se dissocient. Et puis même à l'intérieur même de la sexualité, il y a une parcellisation, c'est-à-dire que l'idéal qui est représenté ou les images qui sont montrées sont souvent parcellarisées, on n'a plus l'ensemble de la personne. Dans ce dynamisme, si vous observez bien, nous assistons à une exclusion progressive de l'altérité, de l'autre. En effet, tout d'abord, il y a l'autre social ou l'autre ecclésial qui n'est plus présent. Ensuite, il y a l'enfant. Et puis ensuite, il y a le partenaire et même soi-même. Vous allez me dire que je suis un petit peu noir, un petit peu pessimiste. Pourtant, c'est une logique auquel nous assistons à son déroulement devant nos yeux. Alors, nous allons voir, mais avec cette question posée, il y aurait plusieurs moyens d'interroger l'Écriture, mais je pose la question, comment est-ce que l'Écriture sainte peut nous éclairer par rapport à cette logique? qui finalement est de tout temps, hein, mais aujourd'hui est systématisée et est promue de façon assez impressionnante. Avec donc cette question au cœur même du lien matrimonial et de cette triple dissociation, voire opposition, comment accueillir l'autre ? Les générations qui ont vécu dans l'Ancien Testament n'ont pas échappé à ce mécanisme, et on peut interroger les différents couples. Je vais, en fonction du temps qui m'est imparti, en interroger l'un ou l'autre. Mais je vais commencer par celui d'Adam et Ève. Ce serait une des seules fois dans le cours où je parlerai d'Adam et Ève de façon un peu systématique. Après, nous plongerons dans d'autres types de familles. Adam et Ève, au chapitre 1 et au chapitre 2, qui révèlent le dessein divin. Et Adam et Ève, au chapitre 3, qui révèlent ce qui se passe maintenant et comment est-ce que Dieu essaye de le sauver dans la réalité telle qu'elle se donne aujourd'hui. Tout d'abord, Adam et Ève selon Genèse 1 et 2. Donc les deux premiers chapitres de la Genèse que vous connaissez sans doute. Ils révèlent donc l'identité profonde du couple humain selon le projet de Dieu. Ils en sont en quelque sorte le couple prototypique. Amour, institution, sexualité et fécondité sont unis chez eux à la racine. Comment ? Je vais simplement me concentrer sur le verset 24 du chapitre 2. Entre parenthèses, n'hésitez pas à apporter votre Bible à ce cours, si ce sera, à mon avis, précieux à plus d'un moment. Donc le fameux verset 24 du chapitre 2 de la Genèse, je vais me concentrer dessus et va nous en livrer une partie du secret. C'est pourquoi l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme, et tous deux, et ils deviennent une seule chair. Dans cette parole viennent se déverser les deux récits de la création, dont elle est en quelque sorte l'aboutissement, le fleurissement. C'est pourquoi. Elle sera ensuite reprise, cette parole, dans le Nouveau Testament, au cœur de l'argumentation sur le mariage, au cœur de la contemplation sur le mariage, tel que saint Paul nous le livre dans, et aussi saint Matthieu, au chapitre 19. « Ainsi donc, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront qu'une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. » Souvenez-vous, Matthieu 19, hein, la controverse sur l'indissolubilité. « Voici donc que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne seront qu'une seule chair. » Ce mystère est grand, je veux dire qu'il s'applique au Christ et à l'Église. Oui. Donc dans Éphésiens 5 et dans Matthieu 19, vous avez une reprise de ce verset tout à fait central du livre de la Genèse, et qui est peut-être le verset le plus révélateur du mystère du lien conjugal. Voyons tout d'abord l'institution. L'institution est manifestée tout d'abord par le fameux « c'est pourquoi » qui inscrit ce type de communion précise entre l'homme et la femme dans la prolongation immédiate des deux récits de la création, Dieu dit « et cela est ». Le mariage un et indissoluble entre un homme et une femme est une réalité naturelle, instituée par Dieu dès l'origine, par sa parole créatrice et fondatrice. Et le Christ, tout en confirmant cette parole primordiale, vient lui donner une dimension nouvelle et stupéfiante. Ce mystère est grand, je veux dire qu'il s'applique au Christ et à l'Église. En Éphésiens 5, 31, qui était dans le temps, paraît-il, un texte qui était présent dans toutes les célébrations matrimoniales. Tous les couples avaient ce texte-là lors du mariage. Par ailleurs, l'aspect proprement institutionnel du mariage peut être observé dans le verbe « quitter ». Quitter ses parents, c'est fonder publiquement une nouvelle communauté de personnes. Une telle action implique non seulement un départ physique, du moins au point de vue symbolique, car un tel départ n'est pas toujours possible, mais également un départ psychologique et spirituel. quitter ses parents ne signifie pas pour autant, évidemment, les abandonner. Bien au contraire, en établissant d'autres formes de liens avec eux et en s'attachant à sa femme, l'homme honore pleinement son père et sa mère, témoignant ainsi de la réussite de leur vocation de parent. Quitter ses parents, c'est la meilleure façon de les honorer. Quitter ne veut pas dire abandonner. Ce n'est pas toujours facile pour des parents. Enfin, vous êtes tous, la plupart des parents, mais ce n'est pas simple pour les parents de laisser partir leur enfant ou bien soi-même de quitter nos propres parents. Je me souviens d'une mère de famille comme ça qui était fort liée à sa fille. Et ce n'est pas du tout une recette que je vous donne, hein, mais qui avait demandé la veille du mariage, tiens, est-ce que tu peux me rendre la clé de la maison ? Alors c'était un acte symbolique fort pour la jeune fille, pour dire, ben voilà, il s'agit maintenant de quitter. Il ne s'agit pas de redemander toutes les clés, hein, mais vous voyez, c'est une façon de mettre en application, dans ce contexte-là, elle avait trouvé ce moyen, je trouve assez fin, pour aider, s'aider elle-même, et aider sa fille à se rendre compte qu'elle devait quitter la maison, qu'elle avait fondé une nouvelle communauté. La dimension de l'amour est présente dans l'utilisation du verbe « s'attacher ». S'attacher, et il s'attachera à sa femme. S'attacher désigne la constitution d'un lien affectif très fort entre deux êtres. En Genèse 34:3, il est synonyme d'aimer. Son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob, et il eut de l'amour pour la jeune fille, et il parla à son cœur. S'attacher connote également l'idée d'une fidélité qui traverse les épreuves. Un bel exemple est celui de Ruth, la Moabite. Elle resta fidèlement attachée à sa belle-mère, Noémie, la Bethléemite. Le mot attaché, personnellement, c'est un mot que de plus en plus je découvre la richesse quand l'attachement est juste, hein, et beau. Le mot attaché aussi implique l'aspect affectif. Il s'agit de s'attacher à sa femme, pas simplement par une pure décision, hein, sa femme à son mari par une pure décision, mais également en conduisant son cœur et ses sentiments vers son conjoint. Tout en sachant, comme dit Thomas d'Aquin, que nous n'avons pas un pouvoir despotique sur notre cœur, nous avons un pouvoir politique. Il faut l'orienter comme ça, comme on peut. En outre, et c'est là peut-être la chose la plus forte, ce verbe hébreu, dabar, est employé dans les textes deutéronomistes d'alliance pour exprimer la qualité du lien qui doit unir Israël et son Dieu, en rapport avec d'autres verbes tels que aimer, marcher dans ses voies, garder ses commandements. Notre terme français attaché a donc du mal à rendre la force du mot hébraïque. L'attachement dont il est question n'appartient pas uniquement à l'ordre de l'affection et des passions, mais aussi et surtout à celui de l'engagement du cœur, au sens biblique du terme, qui traverse toutes les épreuves de la vie. Il touche le niveau essentiel de la personne et pas simplement un niveau social, culturel ou juridique. Notons aussi que dans cette perspective-là, le mot attachement, dans la perspective biblique, comporte un aspect institutionnel. L'attachement se coule dans une forme de contrat d'alliance et de fécondité. L'attachement est toujours source de vie. Troisième verbe, hein, c'est pour ça pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, on pourrait dire la même chose de la femme, hein, il s'attachera à sa femme et tous deux ne deviennent une seule chair. Cette expression fait explicitement référence à l'union conjugale par laquelle l'homme et la femme s'unissent corporellement, non seulement avec leurs os et leurs nerfs, un langage biblique, mais avec toute leur personne. Dans cette communion, ils deviennent réellement un, erat en hébreu, à l'image du Dieu un, par rapport auquel ils ont été créés. Chair indique en effet non seulement la partie charnue du corps commune aux hommes et aux animaux, les os, la peau et les nerfs, mais également l'homme lui-même, considéré selon sa dimension terrestre, contingente et fragile. Plus largement encore, ce terme dénomme la communauté de vie qui s'établit entre les époux. Une seule chair signifie aussi cette vie ensemble dans le quotidien, dans les petits moments comme dans les grands moments. Le lien conjugal qui se crée entre eux à travers les multiples tâches de la vie quotidienne, les soucis matériels, etc. une seule chair exprime donc l'union de deux existences dans l'unité des dimensions corporelles et spirituelles de la personne et non pas simplement sexuelles. Elle comporte une dimension institutionnelle. Et selon certains rabbis, Rashi par exemple, une seule chair désigne encore l'enfant qui naît de l'attachement des époux. L'enfant, aboutissement de l'amour conjugal, est le lieu par excellence où ils sont un. L'amour pour unir ne doit pas rester clos sur lui-même, mais s'ouvrir à autre que lui-même. L'enfant, en quelque sorte, c'est la parole que l'homme et la femme n'ont jamais pu pleinement se dire et qu'ils se sont pourtant échangés. C'est sûr que la dimension de la fécondité est moins explicitement présente dans ce verset que dans le premier récit de la création. Les perspectives sont différentes et complémentaires. « Soyez féconds », dit Dieu en Genèse 1,28. De la côte qu'il avait tirée de l'homme, le Seigneur Dieu façonna une femme et l'amena à l'homme, témoigne pour sa part Genèse 2,22, plus immédiatement attentif à la relation entre les conjoints, à la qualité de la relation entre les conjoints, ce qui est bien le cœur de notre sujet aujourd'hui. Ces histoires différentes, racontées avec des langages différents, des époques différentes, avec des couches rédactionnelles différentes, etc., doivent être lues ensemble. Les deux récits de la Genèse offrent donc les traits d'un couple idéal. Dans la création, institution, amour, sexualité et fécondité sont unis à un niveau structurel, ontologique. Par ailleurs, ce don initial est aussi une tâche confiée aux soins des époux. Ce sont trois verbes, quitter, s'attacher, devenir. Donc ce sont des tâches. Cela n'advient pas automatiquement. Il convient de s'attacher de plus en plus l'un à l'autre. Comment ? C'est à vous à répondre, chacun selon les situations dans lesquelles ils sont plongés. Ainsi, ils deviennent à l'image et à la ressemblance de leur créateur. Pouvait-on imaginer une vision plus positive sur la relation homme-femme, sur la sexualité et sur la famille ? Alors, après avoir présenté ces trois dimensions, quatre dimensions unies dans le couple d'Adam et Ève, et qui sont donc pas simplement, Adam et Ève, c'est pas simplement du passé complètement révolu. Adam et Ève, c'est nous tous ici, hein, à une couche de profondeur radicale. D'accord ? Mais cette réalité est toujours présente et agissante en nous. Donc le regard du philosophe, indépendamment de la foi, peut rechercher dans cette direction-là et trouver. Seulement, cette couche-là est parfois bien cachée et est parfois bien dérangée, désordonnée, suite à ce que les théologiens ont appelé le péché originel. L'objection que vous pouvez me faire, moi c'est pas intéressant d'aller à l'écriture, mais c'est de dire, mais est-ce que ce que vous venez de dire, est-ce que c'est pas trop beau pour être vrai? Les deux premiers chapitres de la Genèse ne sont-ils pas donc réservés à une sorte de monde idéal, qui sont encore sous l'emprise de l'idéalisation de l'amour? C'est très important, la dimension de l'idéalisation de l'amour. S'il n'y a pas un moment d'idéalisation, il manque quelque chose. Car dans la réalité, le couple et la famille peuvent être le lieu de bien des blessures, que de souffrances, de solitude, dans certains cas, même parfois des haines. L'histoire d'Adam et Ève est-elle donc en mesure d'accueillir notre histoire concrète faite de feu et de sang? Aux deux premiers chapitres de la Genèse succède donc le récit de ce que certains appellent la chute, enfin le péché originel, de l'entrée du mal au cœur même de ce qu'il y a de plus beau, à savoir la relation du couple. Au cœur même de ce qui constitue l'image de Dieu. L'Écriture, immédiatement après avoir présenté le couple en sa perfection première et structurelle, que je rappelle est toujours présente au fond de nous, plonge celui-ci au cœur d'un drame épouvantable. Elle nous raconte alors l'histoire d'une série de couples et de familles qui connaissent bien des tourments. Je vais pas ici. Bon, je vais en énumérer quelques-unes, mais peu importe.
Dina, fille de Jacob, est déshonorée par Sichem. Ses frères se vengent en rasant la ville de Sichem, en Genèse 34. David fait assassiner Uri le Hittite pour masquer son adultère avec sa femme Bethsabée, en 2 Samuel 11, chapitres 11 et 12. Amnon, fils de David, viole sa demi-sœur Tamar avant de se faire tuer par Absalom, 2 Samuel 13, 1, 38. Jézabel, excusez-moi, hein, mais oui, on pourrait faire des séries télévisées là-dessus. Hein. Hein, c'est... J'ai écrit dans le livre qui raconte ces histoires-là, j'avais écrit comme titre, j'avais proposé à l'éditeur comme titre « Votre famille dans la Bible ». Et l'éditeur a dit « Oh non, quand même pas ». Mais pourtant, ça raconte nos histoires, d'accord ? Peut-être pas tout, mais quand même. Hein. Jézabel, une femme étrangère, pousse son mari Akab à servir d'autres dieux. Elle l'incite à commettre des injustices envers Naboth, dont il convoite la vigne, et donc à tuer Naboth. Bon. Elle pousse sa carrière, si vous voulez. Hein. Bon. Par n'importe quel moyen. Bon. Alors, il y a des tas de choses, hein, les perversions sexuelles, comme le commerce charnel des filles de Lot avec leur père, qu'elles avaient au préalable enivré, pas du tout par goût de convoitise, mais simplement, elles voulaient absolument avoir une descendance, et à tout prix, un enfant à tout prix. Et donc, pour ça, elles ont trouvé que comme moyen, dans les situations où elles se trouvaient, d'enivrer leur père pour avoir de leur propre père une descendance. La prostitution qui conduit à l'idolâtrie, etc. Bon, il y a des tas de choses. Mais vous pouvez reprendre l'écriture, vous verrez, il y a des... après Genèse 1 et 2, cela raconte souvent des histoires vraiment très actuelles. Il est inutile de multiplier ces exemples. Le drame du péché pervertit de facto toute communion humaine. Et la communion humaine est d'autant plus pervertible qu'elle est belle. La paix semble avoir déserté les familles humaines. Quel contraste avec les deux premiers chapitres de la Genèse. Un tel choc peut nous laisser étourdis et à certains moments susciter une certaine même remise en question ou même tenter son espérance. Or, de cette tentation... Dieu nous en délivre en réalisant patiemment au cours des siècles le salut du couple et de la famille. Les ancêtres du Christ, qui ne sont pas tous des anges, mais des hommes de chair et de sang, remplis de passions bonnes et mauvaises, vont être saisis par la grâce de Dieu, vont être pétris et sauvés par elle, avec une patience toute divine. La patience de Dieu. Vous connaissez cette fameuse prière, hein ? Seigneur, je t'en prie, donne-moi la patience, mais tout de suite. Patience de Dieu. Et aussi, cette façon dont Dieu agit, et quand on voit avec quelle discrétion dans l'Écriture, parfois avec force, parfois aussi, souvent même avec énormément de discrétion, comme dans chacune de nos familles. Pour ça, évidemment, il convient de pouvoir relire nos histoires familiales, de faire mémoire, au sens biblique du terme, de nos histoires familiales, pour essayer de discerner, de voir, de percevoir comment, avec une patience et une délicatesse infinie, Dieu est présent au cœur même de nos histoires. Donc les ancêtres du Christ vont être saisis par cette grâce de Dieu, ils vont bénéficier de cette miséricorde, parce que l'histoire familiale est avant tout une histoire de miséricorde. Même, et peut-être même, et surtout si nos familles réussissent plus ou moins, ça arrive parfois. Mais, donc si jamais votre famille est pour l'instant en bonne santé et en bonne forme, dites-vous que vous êtes peut-être bénéficié d'une miséricorde supplémentaire que d'autres, d'accord ? C'est de la façon dont on s'intéresse de l'enfant Jésus qui a été préservé de beaucoup de choses à réfléchir sur sa propre vocation. Il a peut-être reçu plus de miséricorde que d'autres parce que le Seigneur a péché que je tombe. Encore que elle écrit aussi à chaque pas, je suis prêt de tomber. Et elle l'écrit aussi à la fin de son manuscrit, je m'avancerai devant vous, Seigneur, avec le bon larron et avec la femme adultère. Alors, comment donc Dieu va s'y prendre pour sauver les différents couples dans l'histoire de l'humanité? Commençons par un couple qui va nous intéresser la fois suivante aussi, quand nous traiterons de la paternité. Abraham et Sarah. Ici, je vais me focaliser non pas sur la dimension de paternité chez Abraham et Sarah, donc de maternité, mais plutôt sur leur relation. À première vue, ce couple semble bien loin des deux récits de la création. Il y a une série quand vous relisez ce couple qui est quand même en lequel toutes les familles ou toutes les nations de la terre sont bénies, donc c'est-à-dire nos familles aussi, nos nations également. Lorsque Abraham fut prêt d'entrer en Égypte, il dit à sa femme Sarai : vois-tu, je sais que tu es une femme de belle apparence. Quand les Égyptiens te verront, ils diront : c'est ta femme, et ils me tueront. Et ils te laisseront en vie. Dis : je te prie que tu es ma sœur, pour qu'on me traite bien à cause de toi, et qu'on me laisse en vie par égard pour toi. D'accord ? Balmari n'a pas peur d'utiliser le mot, même si c'était une pratique qui pouvait être plus ou moins courante, enfin pas courante, je ne sais pas, mais. Marie-Balmari dit, il faut utiliser les mots, c'est une forme de prostitution, d'accord, au cœur même du couple. Donc, il prête sa femme à Pharaon pour avoir la vie sauve et pour avoir des avantages matériels. Abraham considère donc sa femme, comme, dans une certaine mesure, comme un bien qu'il possède et qu'il peut céder à autrui si sa survie est menacée. Et Abraham étant... exprimant aussi sa culture, hein. C'est pas simplement Monsieur Abraham, hein. c'est une culture aussi. Et il optera, ici nous sommes au chapitre 12, au début de l'histoire d'Abraham, nous y reviendrons, quand il commence à être tout doucement éduqué par Dieu, mais il va replonger 8 chapitres plus tard, hein. Il aura la même conduite lors de son séjour chez Abimélec, roi des Philistins, en Genèse 22 et suivant. En outre, il pratique l'endogamie, c'est-à-dire que Sarah, c'est en fait sa demi-sœur. Donc, encore une fois, c'est une pratique qui est admise à l'époque. Donc, même père, mais pas même mère. En outre, Abraham cherche à obtenir une descendance à travers une servante, sa femme étant stérile. Ou plus précisément, il faut lire le texte, je ne vais pas trop m'avancer dans ce sujet-là, mais c'est Sarah qui organise tout. Hein. Lui, simplement, il consent. Pas simplement. Déjà beaucoup. Hein. Dès qu'on est au cœur de la vie, ce sont les femmes qui sont là. C'est vrai. C'est vrai. Un cours magnifique avec Bruna Costa Curta, qui était une exégète très très fine et qui disait ceci par rapport à la chute de la Genèse. Pourquoi est-ce que c'est Ève que le serpent trompe? Parce qu'il savait bien que s'il trompait Adam, il y aurait eu après Ève pour dire maintenant c'est fini, ça suffit. Mais il savait bien que s'il trompait Ève, Adam suivrait automatiquement. Mais là derrière, alors elle l'enracinait scripturairement, hein, dans l'écriture, hein. Là derrière, il y a cette conception de la femme comme médiatrice de vie. Vous voyez, et quand on veut pervertir la vie en son cœur, hein, au cœur, au niveau intime, eh bien, c'est la femme qui est la première, en première ligne, si vous voulez. Et puis alors, vous avez aussi toute la réflexion sur Marie, etc., la figure féminine de l'Église et tout. Je laisse ça de côté. Donc, la question de la mère porteuse, même s'il ne faut pas faire d'amalgame, comme certains m'ont dit, mais c'est quand même la même logique, un engendrement sans alliance, et en ayant une attitude utilitariste avec tout le monde, se pose au cœur de ce couple-ci, d'accord ? Notons enfin qu'Abraham possédait encore d'autres concubines et de nombreux autres enfants. Genèse 25, 1, 7. Oui. Abraham partage donc les mœurs et les coutumes de son époque, une conception de la femme comme un bien dont le mari peut, dans une certaine mesure, disposer, les mariages consanguins, le concubinage légal. Il est un homme, comme on dirait aujourd'hui, bien de son temps, lui en qui toutes les familles de la terre sont bénies. Comment Dieu réagit face à cet homme de son temps, et qui pourrait être un bon bruxellois aussi, hein. Ça va ? Oui, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé, hein, c'est que c'est une façon de d'accueillir la complexité de la société dans laquelle nous vivons, de façon toute simple, et de se dire, mais finalement, ce qui est vécu, évidemment, dans un contexte culturel précis, avec une époque précise, etc., eh bien, est en quelque sorte, accueille notre propre culture. Et non seulement l'accueil, mais aussi la travaille. Alors, lorsque Dieu voit comment les choses se passent, comment est-ce qu'il réagit ? Évidemment, nous sommes dans une histoire particulière. Il frappa Pharaon de grandes plaies. Tiens, avant Moïse. Dieu frappa Pharaon de grandes plaies et aussi sa maison à propos de Sarai, la femme d'Abraham. Dieu manifeste qu'une telle situation n'est pas correcte, n'est pas juste, n'est pas selon son dessein. Il n'a pas peur de remettre en question des coutumes ancestrales qui ne correspondent pas aux pensées de son cœur. C'est pour ça que le sous-titre, hein, de cette intervention ce soir, « Le couple dans les tourments lumineux de l'Écriture sainte », c'est « Les pensées de son cœur subsistent d'âge en âge ». Les pensées de son cœur subsistent d'âge en âge. Il révèle donc à Pharaon, et par contre-coup à Abraham, que cette pratique n'est pas juste. Le résultat ne se fait pas attendre. Pharaon convoque Abraham, lui reproche son mensonge et le renvoie avec Sarai. « Maintenant, voilà ta femme, prends-la, va-t'en. » Et il lui faudra redire la même chose avec force un peu plus tard, lorsqu'Abraham récidivera à la cour du roi Abimélec. Et là, il va donner un signe d'une puissance. On est là dans les fondements, hein. Il rendra stérile le sein de toutes les femmes dans la maison d'Abimélec à cause de Sarah, la femme d'Abraham. Genèse 20, 18. Dieu manifeste ainsi clairement que la sexualité, la vie et la fécondité entretiennent un rapport intime avec l'institution matrimoniale. Et nous retrouvons ce lien entre mariage et fécondité dans l'épisode du chêne de Mambré. Alors, ça c'est pour une première famille. On pourrait voir dans une autre famille, celle de Jacob, Léa et Rachel, que nous aurons aussi l'occasion de voir dans un contexte différent lorsque nous traiterons de la fraternité. Donc, avec tout d'abord, il y a d'abord Abraham et Sarah, et puis il y a Ismaël, dont Dieu continue à s'occuper. Hein, Ismaël, le fils de la servante, dont Dieu continue à s'occuper, il prend vraiment soin de lui, même si c'est à travers une forme de mort importante. Hein, et puis, il y a le fils de la promesse qui est Isaac. Isaac se marie avec Rebecca. Avec Isaac et Rebecca, la dimension de l'amour fait son entrée en scène au cœur du mariage. L'alliance était déjà évidemment présente de façon très forte avec Abraham et Sarah, mais avec Isaac et Rebecca, la dimension de cette alliance d'une alliance d'amour est développée. La question de l'amour, notez-le bien, dans une mentalité sémitique, était assez secondaire. Hein. Si on se mariait, ce n'était pas du tout d'abord parce qu'on s'aimait. Si on se mariait, c'est simplement pour pouvoir avoir une descendance. Le bien premier, c'était la descendance, la continuation, l'héritage. Avec cette parole déchirante d'Abraham qui ne parvient pas à avoir d'enfant, un serviteur héritera de moi. Donc, le fait que l'amour rentre de façon si forte est quand même au cœur même de l'alliance conjugale, est quelque chose qui, à nous, aujourd'hui en 2015, semble normal, mais qui est assez révolutionnaire, hein, dans la façon de percevoir les choses. Actuellement, la tendance est sans doute plutôt à l'inverse, centrée sur l'amour. On a du mal à voir le lien entre l'amour et la fécondité. Enfin, en tout cas, on a du mal à, plus de mal à le situer. L'amour d'Isaac pour Rebecca n'interviendra, vous êtes, d'abord il y a cette magnifique scène que je vous invite à relire, Genèse 24 et suivante, du serviteur et de Rebecca avec autour du puits, avec les cruches d'eau, etc. Enfin, il y a là une sorte de lyrisme magnifique avec les chameaux et tout. Enfin, oui, mais l'amour proprement parlé d'Isaac pour Rebecca n'intervient qu'après la conclusion du pacte matrimonial. Et Isaac, dit le texte, introduisit Rebecca dans sa tente, il la prit et elle devint sa femme et il l'aima. Et alors, note le texte, à mon avis, avec un petit peu d'ironie, et Isaac se consola de la perte de sa mère. Genèse 24, 67. Enfin, cette dimension de l'amour se développe à l'intérieur de l'histoire de Jacob. Jacob, c'est le deuxième fils que nous étudierons bientôt. Laban, en fait, c'est le frère de Rebecca. Hein, d'accord. Donc, c'est le beau-frère de Isaac. Il faudrait que je fasse un arbre généalogique au tableau, la prochaine, j'en ferai un. Oui, parce que une histoire familiale ne se comprend pas sans arbre généalogique. On a besoin... Vous voyez, de voir les liens les uns avec les autres pour comprendre la réalité. L'individu n'est pas un être purement autoréférentiel. Il se réfère toujours à des ancêtres, à une ascendance et une descendance. C'est ce qui fait la caractéristique de la famille. Une des caractéristiques importantes de la famille. Donc Laban, le beau-frère de Isaac, avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Les yeux de Léa étaient doux, mais Rachel avait belle tournure et beau visage, et Jacob aimait Rachel. Il dit, « Je servirai cette année pour Rachel, ta fille cadette. » Donc, Jacob servit pour Rachel pendant 7 années, qui lui parurent comme quelques jours, tellement il l'aimait. Il faut faire quand même 7 ans. Pour ceux qui ont été fiancés et qui s'aimaient pendant des longues fiançailles, c'est une certaine épreuve. Donc, Genèse 29, 17-20. Rencontré au bord d'un puits, il avait lui-même soulevé la pierre pour abreuver les moutons de sa cousine. Et il tombe éperdument amoureux de Rachel au beau visage, au point de ne pas voir le temps s'écouler. Or, vous connaissez peut-être l'histoire, le soir des noces, Laban, c'est une famille de rusés, hein, ils sont tous très rusés, hein, vraiment, c'est le cas. Pour le meilleur et aussi pour le pire. Or, le soir des noces, Laban trompe horriblement son beau-fils Jacob. Il introduit Léa, donc l'aînée, et non Rachel, dans sa tente. Et alors, comme elle est voilée, etc., bon, il se trompe. Et il exige 7 autres années de travail pour lui accorder Rachel. Tromperie d'un père voulant marier sa fille aînée à tout prix. Rééquilibrage des destins. Comme dit Paul Beauchamp. Jacob, il faut bien se rendre compte que quand il arrive au puits et qu'il tombe amoureux de Rachel aux beaux yeux, il vient de tromper son père. Lui-même, son père qui était aveugle, qui ne voyait rien. Lui-même en se déguisant. Et donc, le trompeur est trompé. D'accord ? Ce sont nos petites histoires familiales, vous voyez ? C'est peut-être pas à ce niveau-là, enfin, encore que, on serait étonné. Hein. Souvent, l'effet que donnent ces récits de l'écriture, c'est de se dire, mais finalement, notre famille, elle est pas mal du tout. Hein. Ma famille est pas mal du tout. Voyez. Jacob le trompeur est trompé à son tour. Il avait donc profité de la nuit dans laquelle son père aveugle était plongé, et à présent, Laban profite de la nuit pour le duper. Il s'était fait passer pour Ésaü, et voilà que quelqu'un d'autre se fait passer pour sa fiancée. On verra ça avec Joseph, mais on peut relire tout le livre de la Genèse pour des questions de manteau, de tunique, etc. Ou finalement, qui voile et qui dévoile, et qui trompe, et qui serve... Vous voyez, on aura l'occasion de voir la question... La thématique du manteau dans la Genèse est géniale, vraiment, est tout à fait géniale. c'est la question de l'apparence. Quelle est la réalité? Quelle est l'apparence? Comme dans toute relation humaine, et en particulier aussi de la relation entre les époux. En tout cas, la coordination entre institution et amour suit un parcours, comme vous voyez, bien sinueux. Et il faudra que Jacob travaille 7 autres années pour épouser enfin Rachel. Et évidemment, comme il fallait s'y attendre, il aima Rachel plus que Léa. 29-30. Il aima Rachel plus que Léa. Comment Dieu va-t-il réagir? C'est le lien entre amour et fécondité. Le Seigneur vit que Léa était délaissée et il la rendit féconde, tandis que Rachel demeurait stérile. 30-31. Le lecteur que je suis est scandalisé. Comment est-ce que Dieu... Vous imaginez, hein? Elle mit au monde 4 fils. Léa conçut et enfanta un fils qu'elle appela Ruben, car elle dit « Le Seigneur a vu ma détresse, maintenant mon mari m'aimera. » Elle conçut encore et enfanta un fils et elle dit « Le Seigneur a entendu que j'étais délaissée et il m'a aussi donné celui-ci. » Et il appela Siméon. Elle conçut encore et enfanta un fils et elle dit « Cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi, car je lui donnai 3 fils. » Elle l'appela Lévi. Et elle conçut encore et enfanta un fils et elle dit « Cette fois, je rendrai gloire au Seigneur. » C'est pourquoi elle l'appela Judas, puis elle cessa d'avoir des enfants. Donc, Léa, pour se faire aimer de son mari, elle enfante. Et Dieu rentre là-dedans. Ce beau passage ne réduit nullement Léa à sa fonction maternelle, comme une interprétation trop rapide pourrait le laisser entendre. Notre texte, qui ne se situe pas d'abord à un niveau psychologique, offre la lumière suivante, parce que j'ai perçu. L'amour de Léa et de Jacob se fonde sur plus qu'eux-mêmes, au-delà ou en deçà même de leurs différends conjugales, c'est-à-dire sur leurs enfants considérés comme dons de Dieu. À travers leurs enfants, c'est à la source même de leur alliance qu'ils remontent pour puiser leur force de s'aimer. Le rythme de ce passage, qui le fait ressembler à un chant ou à une incantation, manifeste cette croissance à travers bien des épreuves, comme en témoigne la signification des différents prénoms. Et donc, Léa devient de plus en plus aimée par son mari. Leur communion croît en même temps que leur fécondité, en même temps que l'accueil des nouveaux enfants. Alors, ne me faites pas dire, et ne faites pas dire surtout au texte ce qu'il ne dit pas. Il n'est pas dit que si on a des problèmes avec son mari, c'est qu'il faut nécessairement avoir des enfants, d'accord ? D'après ce que disent les gens... les psychologues et une série de personnes qui sont compétentes dans ce domaine-là, lorsqu'il y a des profonds différends entre un homme et une femme, donc au sein d'un couple, la vue d'un enfant risque non pas de raccrocher le couple, mais de l'éloigner encore, parce que le fait d'avoir un enfant est toujours est une forme d'épreuve quand même pour le couple, et c'est la mère qui introduit l'enfant dans la relation avec son père, et si jamais la relation est extrêmement mauvaise, elle aura tendance à garder l'enfant pour elle-même et donc en faire une sorte le fossé risque de se croiser, de se creuser. Donc ces textes-là ne doivent pas non plus être appliqués, ce ne sont pas des recettes que je vous donne, je vous témoigne de ce dont je vous raconte ce que raconte l'Écriture, d'accord ? Après, on fait ce qu'on peut être prudent. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Rachel, voyant qu'elle-même ne donnait pas d'enfant à Jacob, devint jalouse de sa sœur. On verra que Jacob et Joseph et ses frères, la question de la jalousie est complètement centrale. Et elle dit à Jacob, « Fais-moi aussi avoir des enfants ou je meurs. » Il ne faut pas prendre cette parole simplement comme un caprice. C'est une parole d'un poids, et c'est un cri que je trouve extrêmement déchirant. « Fais-moi avoir aussi des enfants ou je meurs. » Une question de vie ou de mort pour elle. La vie et la mort sont ici engagées. Jacob en est parfaitement conscient. Lui qui s'emporte contre Rachel en lui rétorquant, c'est Marie qui essaie de consoler sa femme comme il peut, « Est-ce que je tiens la place de Dieu qui t'a refusé la maternité ?» Rachel alors recourt au même stratagème que sa grand-mère Sarah. Voici ma servante Bila, va vers elle et qu'elle enfante sur mes genoux. Qu'elle enfante, elle, sur mes genoux, moi. Par elle, j'aurai moi aussi des enfants. Et Bila conçut et enfanta à Jacob un fils. Rachel dit, Dieu m'a rendu justice, il a entendu mes pleurs et m'a donné un fils. C'est pourquoi elle l'appela Dan. Bila, la servante de Rachel, conçut encore un enfant. Conçut encore et enfanta à Jacob un second fils. Rachel dit, j'ai livré, alors ça, vous imaginez, Nephtali, hein, c'est le prénom. Qu'est-ce que signifie le nom de Nephtali, vous imaginez? J'ai livré un combat divin avec ma sœur et m'en suis montré capable. Imaginez l'enfant qui porte ce prénom. Hein. Alors, de son côté, Léa ne pouvait plus enfanter. Elle donna donc... Alors, comment... Dans cette logique-là, vous savez, Rachel va à nouveau me supplanter. Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va avoir recours, elle aussi, à une mère porteuse. D'accord? Et donc, elle va, c'est dans ce drame-là, c'est pour ça que j'en parle maintenant, que va s'enraciner toute la problématique de Joseph et de ses frères, et toutes les jalousies entre frères. La racine est là, elle est là. Et elle remonte même plus haut, à une génération ou deux plus haut. Nous verrons ça la fois prochaine. Elle donna donc sa servante Zilpa à Jacob, qui lui enfanta deux autres fils. Elle déclara, un bonheur inattendu a fait irruption, et l'appela Gad. Gad signifie un bonheur inattendu a fait irruption. Bon. Un bonheur relativement programmé quand même. Zilpa enfanta une seconde fois et Rachel dit « Pour ma félicité, car les femmes me féliciteront. » Et elle appela l'enfant Asher. Enfin, Léa encore elle-même eut deux autres enfants. « Dieu m'a donné mon salaire pour avoir donné ma servante à mon mari. » Elle l'appela Issachar. Dieu m'a attribué une bonne part, cette fois, mon mari viendra habiter chez moi, car je lui ai enfanté six fils, et elle l'appela Zabulon. Ensuite, elle enfanta une fille qu'elle nomma Dina. Alors Dieu se souvint de Rachel, et il l'exauça, et il la rendit féconde. Imaginez un peu le tableau familial, d'accord? Elle conçut, et elle enfanta un fils, et elle dit, Dieu a enlevé ma honte, elle l'appela Joseph. Voilà d'où il vient. Que Dieu m'a... Disant que Dieu m'ajoute un autre fils, longtemps après, Rachel mourra en donnant naissance à Benjamin. Donc, vous voyez comment, quand je parle de ce lien entre institution, amour, sexualité, fécondité, c'est quelque chose qui... C'est une réalité qui, même si elle est profondément liée dans le couple prototypique, eh bien, elle est un peu... éparpillé et Dieu va, entre dans l'histoire d'une famille et puis, pour peu à peu faire route avec eux, peu à peu les aider à avancer. La Bible ne rapporte pas là un fait divers sans réelle importance, mais la naissance des chefs des 12 tribus principales. Voilà, alors je vois que le temps est déjà presque écoulé. Je voudrais simplement annoncer les points que je ne traiterai pas ce soir, mais vous pourrez le trouver dans ce livre-ci, qui s'appelle « Éthique sexuelle et familiale ». J'en ai pas beaucoup d'exemplaires, vous pouvez en acheter un, soit j'essaierai d'apporter la fois prochaine encore des exemplaires, où en fait le premier chapitre traite de ces différentes histoires. Et il ne concerne que le premier cours. Après, chaque autre cours aura d'autres textes qui seront aussi disponibles. Et vous avez dans ce livre, donc après ce premier chapitre, toute une série de chapitres sur toutes les questions importantes au niveau de l'éthique sexuelle et familiale. Donc, il ne concerne pas directement notre cours du soir, si ce n'est le premier chapitre. D'accord ? Et donc, dans ce livre, j'étudie comment ces quatre dimensions sont aussi à l'œuvre dans le couple assez étonnant d'Osée et de Gomère. Et puis, dans celui tout à fait lumineux et merveilleux, mais en même temps qui a traversé de redoutables épreuves, celui de Tobie et de Sarah. qui était un mariage qui avait bien mal commencé. Vous savez, le soir des noces, le père a commencé à creuser la tombe du futur beau-fils. Hein. Faut le faire, hein. Et puis, je n'ai pas le temps de le traiter, pourtant c'est un chapitre enfin, qui serait important, de montrer comment, en fait, le mariage est un avec la venue du Christ, est un sacrement. Et donc, est signe et moyen de l'union du Christ et de l'Église. Pas simplement signe, mais signe et moyen. Et de montrer comment cette alliance du Christ et de l'Église, qui est en quelque sorte le couple non plus prototypique comme celui d'Adam et Ève, mais téléotypique, comme dit Pierre Grelot, ces quatre dimensions de l'institution de l'amour, de la fécondité et de la sexualité, enfin de l'union, de la communion, sont présentes. Notamment à travers une étude de la magnifique épître de saint Paul aux Éphésiens, Éphésiens 5. Voilà, alors je voudrais conclure en posant une petite question de Familiaris Consortio au numéro 11. Quel est le dessein de Dieu sur le mariage et la famille? Se demande cette exhortation apostolique qui date de 1981. Et bien dans ce texte, nous assistons à une articulation extrêmement rigoureuse, théologique, réfléchie, rationnelle, entre les dimensions de l'amour, de la sexualité, de la fécondité et de l'institution. Donc je vous le lis le numéro 11. La vocation à l'amour est la vocation fondamentale et innée de tout être humain. Puisque l'homme est un être, un esprit incarné, il est appelé à l'amour dans sa totalité unifiée. La révélation chrétienne connaît deux façons de réaliser la vocation à l'amour de la personne humaine dans son intégrité, le mariage et la virginité. Dimension de l'amour, qui est au cœur de ce très beau texte de Familiaris Consortio. Le texte suit, en paragraphe 4, la sexualité ne se réalise de façon véritablement humaine que si elle est partie intégrante de l'amour dans laquelle l'homme et la femme s'engagent entièrement l'un vis-à-vis de l'autre. La donation physique totale serait, dit Jean-Paul II, un mensonge qui n'était pas le signe et le fruit d'une donation personnelle totale. Donc l'articulation entre premier paragraphe, les trois premiers paragraphes traitent de l'amour. Ensuite, dans cette lumière-là, traite de la donation physique totale. Et puis, au paragraphe 5, cette totalité requise par l'amour conjugal correspond également aux exigences d'une fécondité responsable. Et dans le paragraphe 6, le lieu unique qui rend possible cette donation selon toute sa vérité est le mariage, c'est-à-dire le pacte d'amour conjugal. L'institution du mariage est une exigence intérieure du pacte d'amour conjugal qui s'affirme publiquement comme exclusif et unique. Pour moi, c'était un peu une lumière de retrouver ma clé de lecture, en quelque sorte, en tout cas, que j'ai hérité et transformé de Pierre Grelot, dans ce passage de Familiaris Consortio au numéro 11, où je voyais articuler ces quatre dimensions. Et Jean-Paul II de poursuivre, l'esprit que répand le Seigneur leur donne aux baptisés un cœur nouveau et rend l'homme et la femme capables de s'aimer comme le Christ nous a aimés. Voilà, alors je vous remercie pour votre attention. La fois prochaine, nous traiterons de l'aventure de la paternité.